Bonjour, Raymond Richard au micro, et bien pour cette émission, La foi chemin de liberté, je vous propose de réfléchir sur cet adage « Hors de l'Église, pas de salut ». Hors de l'Église. Bon, et bien maintenant, cela concerne une bonne quantité de personnes, d'une part à cause du pluralisme religieux qui existe de par le monde, mais aussi parce que dans nos vieilles civilisations chrétiennes, dans nos sociétés de chrétienté, comme on disait naguère, il y a une progression de l'indifférence religieuse qui est telle que cela peut poser question à ceux qui sont restés dans le giron d'église. Et puis, qui n'a pas dans sa famille un enfant qui a récusé son baptême? Et même dans les familles chrétiennes, on voit des personnes qui ont été baptisées écrire à leur évêché respectif en disant « Eh bien, je veux me faire débaptiser ». Impossible, on leur répond. Mais tout de même, c'est très nouveau. Et puis, pour les grands-parents, combien d'entre eux souffrent de voir que leurs enfants n'ont pas fait baptiser leurs petits-enfants. Leurs enfants ont laissé de côté cette appartenance à l'Église. Donc, c'est une question qui concerne aussi les chrétiens, ceux qui restent dans le giron de l'Église. Et on peut peut-être s'interroger là-dessus. En tout cas, c'est une question qui m'intriguait parce que tous ces gens avec lesquels on partage tant, qui sont nos amis, nos relations, notre famille, et qui ne sont pas dans l'Église, avec en plus, récemment, les affaires dans l'Église, la pédocriminalité qui s'y est affichée, et puis les crises d'autoritarisme. Un certain nombre de femmes ouvertement disent « Bon, eh bien, on n'est pas reconnues, et finalement, elles ne font pas la révolution, elles glissent à l'extérieur ». Une bonne raison de se poser la question, est-ce que hors de l'Église, il n'y a pas de salut? Pour y répondre, eh bien, j'ai été chercher le livre de Bernard Sesbouet, qui s'intitule justement « Hors de l'Église, pas de salut ». J'ai trouvé des réponses intéressantes. Tout d'abord, il y a les aspects historiques. D'où vient cette formule? Et puis, on peut aussi se poser les questions, et comment les autres religions envisagent le salut des hommes, puisque toutes les religions imaginent un après la mort. Donc, est-ce que cela veut dire que hors de l'islam, pas de salut, hors du bouddhisme, pas de nirvana? Pluralisme et mondialisation, dans l'espace d'aujourd'hui, rendent difficile d'entendre cet adage, d'autant plus que le pape lui-même pousse les chrétiens à sortir de l'Église, à entrer en dialogue avec les autres religions. Et puis, même hier, quels sont les enjeux de foi que pose cet adage? Quelques aspects historiques de la question. Même au tout début de l'Église, s'est posé la question, mais et les autres? Ceux qui ont existé avant le Christ, ou bien ceux qui ne sont pas de cette Palestine où se développe le christianisme. Et puis, quel sens ça a pour aujourd'hui? Alors, en ce qui concerne les enjeux, eh bien, un des premiers enjeux, c'est ce qu'on appelle l'inhérence du magistère de l'Église. Dans l'Église, le principe veut qu'elle construit son dogme à travers les siècles en cohérence et qu'elle ne se trompe pas. Alors en affirmant qu'elle possède l'exclusivité du salut, puisque hors de l'Église, quand on est hors de l'Église, il n'y a pas de salut, comment aujourd'hui surmonter la difficulté d'accepter un tel adage? Le théologien Joseph Ratzinger posait le problème ainsi: à la conscience moderne, la certitude de la miséricorde divine, même au-delà des frontières de l'Église juridiquement constituée, s'impose avec une telle force élémentaire qu'elle ne peut finalement voir là aucun problème. Il y a aussi un enjeu pour la foi, puisque cette prétention est en relation avec l'unicité du Christ pour le salut de chacun. Et dans l'histoire, cela a entraîné un certain nombre de choix de l'Église. L'engagement de l'Église en faveur des missions, la limitation de la liberté religieuse, la question du débat, tolérance, intolérance, qui a tout de même marqué la société, les guerres de religion, et puis la réflexion sur les chrétiens anonymes, parce qu'on voyait mal tout de même des personnes qui menaient une vie exemplaire être hors de l'Église et donc condamnées. Mais que dit Jésus? La formule même aussi que Jean attribue à Jésus reste énigmatique. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça renvoie au parallèle. Hors de l'Église, pas de salut. Mais c'est corrigé, puisque dans le texte de Matthieu, du jugement dernier, on voit que c'est l'amour pratique de petits qui tiennent compte des sans-vêtements, des affamés, des assoiffés, des chercheurs de paix, qui disent, mais au Christ, quand avons-nous revêtu, etc. Donc, le Christ se révèle à eux incognito, on pourrait dire, et les sauve. Quelle est l'histoire de cette formulation?
Au début de l'Église, dans les premiers temps, cet adage s'adressait surtout à des chrétiens qui étaient tentés de quitter la grande Église pour des petites églises hérétiques.
Ou qui fuyaient les persécutions dont les chrétiens étaient victimes. Oui, alors il s'agissait pour les pères de l'Église de l'époque de dire, on ne peut l'accepter, donc hors de l'Église, pas de salut. Alors il s'agissait de Cyprien, d'Irénée, Cyprien étant d'ailleurs plus sévère qu'Irénée. Au cours du Moyen-Âge, finalement, même autour de, disons, 10e, 11e siècle, 12e siècle, on continue. La rupture intervient quand même plus tard.
Oui, elle intervient au moment des grandes découvertes, 15e, 16e siècle, parce que à ce moment-là, on découvre des populations qui n'avaient pas pu connaître le Christ et l'Église.
On découvrait des continents entiers, donc difficile de, disons, une ségrégation aussi violente entre ceux qui sont dans l'Église et ceux qui sont en dehors. Alors il y a effectivement les grandes découvertes, donc on change la donne, la Renaissance et la Réforme. Donc là, l'Église a d'autres chats à fouetter et il y a des gens qui quittent le bateau, l'Église. Suit alors le Concile de Trente.
La période du Concile de Trente et puis, après, les Lumières et les philosophes.
Voilà, parce qu'au début, on accepte. On a des frontières mouvantes entre ceux qui veulent bien une certaine sévérité et ceux qui disent, mais tout de même, ceux qui font le bien, ceux qui font la charité, ceux qui... Les philosophes obligent à revoir la copie.
Oui. Et un texte qui est particulièrement révélateur, c'est celui de Rousseau dans la profession de foi du vicaire savoyard.
Alors, c'était un bon théologien, finalement.
Oui, c'était un bon théologien. Alors il dit, « Quand il serait vrai que l'Évangile est annoncé par toute la terre, qui gagnerait-on ? La veille du jour que le premier missionnaire est arrivé dans un pays, il y est sûrement mort quelqu'un qui n'a pu l'entendre. Or, dites-moi ce que nous ferons de ce quelqu'un. N'y eut-il pas, dans tout l'univers, qu'un seul homme à qui l'on n'aurait jamais prêché Jésus-Christ ? L'objection serait aussi forte pour ce seul homme que pour le quart du genre humain. »
Voilà, donc là, il pose la question de façon radicale, si j'ose dire. Et puis, bien, c'est vrai que l'Église est restée avec cette question, ce questionnement en tout cas, et à essayer de trouver des parades. Alors on a des frontières mouvantes entre ceux qui sont sévères et ceux qui ne le sont pas. Et puis on a imaginé l'ignorance innocente.
Oui, c'est l'ignorance de ceux qui n'auraient pas pu avoir la connaissance.
On a imaginé aussi pour les enfants qui mouraient avant d'avoir été baptisés, qui de ce fait n'étaient pas dans l'Église.
Oui, alors c'est là où on a inventé l'expression « les limbes ».
Oui, un espèce de frigidaire où on mettait les gens en attente de...
Oui,
en attente de quoi, justement ? Exit les limbes, d'ailleurs, depuis. Et puis il y a le tournant, entre quelques théologiens, entre la Seconde Guerre mondiale et Vatican II, qui ont amorcé une réflexion, on pourrait dire un virage, qui fait que la vérité du début de la période et puis l'attitude de Vatican II, le virage est à 180 degrés.
Oui, parce que le Concile Vatican II a transformé le discours, non seulement sur les autres religions, mais aussi sur les valeurs présentes dans toute l'humanité.
Donc là, impossible de dire hors de l'Église, pas de salut, d'autant plus qu'il y a la reconnaissance des autres églises chrétiennes. Donc
oui,
ça n'est plus l'Église, l'unique Église de Rome, mais une relation ouverte avec les autres églises chrétiennes, avec les églises orthodoxes, avec les protestants. Donc peu à peu, l'extension se fait bon an mal an. Et puis, il y a aussi les autres religions. On ne peut pas envoyer tout le monde brûler en enfer.
Ben non. Oui, donc, avec Vatican II, ce sont les perspectives du père de Lubac qui sont confirmées. Il disait « Le salut n'est pas la somme de salut individuel. Il s'adresse aux hommes de manière communautaire. C'est pourquoi il respecte aussi la réalité des groupes religieux. »
Donc la question c'est aujourd'hui, quel bilan de toutes ces ruptures et comment aujourd'hui on prend cette affaire ?
Alors aujourd'hui, l'Église reconnaît ses torts à l'égard des autres, prend mieux conscience que la mission c'est sa responsabilité et elle renonce à employer une formule qui semblait naguère un dogme et infaillible.
Donc finalement, la responsabilité, là, n'intervient plus à ceux qui sont hors de l'Église, mais à l'Église qui a le devoir de sortir et d'aller chercher ces chrétiens anonymes, à un moment on disait, mais ces personnes qui font la justice, qui finalement ne sont pas loin de l'Évangile, voire même qui pratiquent l'Évangile. Dans son ouvrage, le père Sesboué nous dit « L'Église est aujourd'hui plus consciente de cette situation antagoniste et donc plus modeste et plus prudente dans ses affirmations, comme la volonté de Vatican II de ne rien définir de manière entre la vérité irréformable et puis la reconnaissance de toute la part de contingence et d'histoire, il y a évidemment toute une marge et donc... La flexibilité est indispensable et c'est cette flexibilité qui permet à une structure de subsister dans un monde en mutation. Voilà, donc une Église flexible qui tient compte des hommes avec, bien revenons à cette parole du pape, « Qui suis-je pour juger ?» C'est peut-être une parole à partager entre tous les chrétiens. Qui sommes-nous pour juger les autres ? Ce sera le mot de la fin. Et on vous dit bonne semaine et à bientôt sur Radio Grand Ciel.